La grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant ainsi la salutation traditionnelle et tout à fait profane des Grecs, charis oumin, le bonheur devenu la grâce, soit avec vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, shalom aleichem, la paix soit avec vous. Et par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, et à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu, et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. Et en commençant notre culte par l'expression de Paul, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament et celui du bonheur, de la grâce, du Second Testament. Mais nous voulons signifier aussi que ce message s'adresse à ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion, comme à ceux qui se trouvent bien à l'extérieur, et comme à ceux aussi, qui sont très nombreux, qui se trouvent dans ce territoire qu'on appelle l'entre-deux, qui peut varier selon les époques et les moments de la vie. Que tous, donc, pour vous tous, que la grâce et la paix soient donc avec vous ce matin. J'espère que vous avez tous une feuille de liturgie et un cantique, de façon à vous permettre de suivre les cantiques. Et comme vous le savez, nous sommes en plein démarrage d'une nouvelle installation de son et d'audio dans le temple. Donc pour ceux d'entre vous qui n'entendraient pas tout à fait assez bien, n'hésitez pas à vous rapprocher. Plus on est proche, mieux on entend. Et donc si vous avez une difficulté d'audition, n'hésitez pas à vous rapprocher. Et pour tout le monde, soyez encore un peu indulgents, nous attendons encore quelques réglages et je pense que ça prendra encore quelques semaines avant que le son soit parfaitement audible pour tout le monde. Bienvenue également aux enfants qui sont avec nous ce matin pour leur catéchisme et leur école biblique et qui resteront avec nous ce matin jusqu'à la louange. Donc je vous propose de commencer par le spontané d'ouverture que va nous jouer Fred. Restons assis pour louer Dieu. Ce matin, notre Dieu, nous voulons rendre grâce pour la lumière qui entre de tous côtés dans ce temple, pour le bonheur de se retrouver ensemble à écouter ta parole, pour l'éclaircie dans nos vies au fil d'une longue période de privation et de solitude, pour ces échanges humains plus proches et moins chargés d'inquiétude. Pour le Christ qui a incarné le fait que cette vie est marquée par la grâce et par le bonheur. Merci pour ta confiance. Merci pour ta présence au plus noir de nos nuits comme dans la clarté du jour qui vient. Merci pour ton amour de Père. Amen. Et nous chantons le cantique 258, debout, les strophes 1, 2 et 3. Thank you. écoutons la volonté de Dieu pour nous. Dans la lettre aux Galates, nous lisons « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Et nous chantons le second spontané. Une prière de repentance de James Woody. Pour tous mes énervements qui prennent bien souvent l'autre en otage, pardon. Pour tous mes jugements hâtifs qui en fait insultent l'autre, pardon. Pour toutes ces impasses dans lesquelles j'entraîne les miens, pardon. Pour ces errances dans lesquelles je me complais, pardon. Pour mon cœur qui oublie d'aimer, pour mes paroles qui blessent, pour mes yeux qui ne voient plus la beauté de la création, pardon. Pardonne-moi, Seigneur, de ne plus être le sel de la terre, comme tu m'y as encouragé, de ne pas rendre la vie véritablement savoureuse, alors que j'ai tant de raisons de le faire. Pardonne-moi de ne pas suffisamment refléter ta lumière et de ne pas éclairer mes frères et sœurs. Pardonne-moi de ne pas faire lever ton soleil de justice sur leur existence. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je vous propose de nous lever et de chanter le psaume 67, que Dieu nous bénisse et nous garde, les strophes 1 et 2. De ce matin nous ramène quelques mois en arrière, un peu après la Pentecôte. En fait, c'est le tout dernier texte de l'évangile de Matthieu que je vais vous lire ce matin et sur lequel portera la prédication. Ce dernier signe, ce dernier message de Jésus-Christ avant sa disparition physique définitive. Et tout d'abord, je voudrais vous lire un texte du Deutéronome au chapitre 4, les versets 32 et 34, et puis 39 et 40. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais huit choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et puis donc ce texte de Matthieu sur lequel portera la prédication, au chapitre 28, versets 16 à 20, qui sont les quatre derniers versets de l'Évangile. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Ce texte... Est-ce que ça va, le micro, ça va? Ce texte, c'est l'histoire d'un deuil. Un deuil comme vous en avez tous vécu. Un homme, une femme qui vous était particulièrement chère, meurt. Parfois, avant de mourir, l'être cher vous a dit adieu en vous disant « Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je veillerai toujours sur toi. » Et après sa mort, cette personne aimée, qu'on voit apparaître de manière étrange pendant des jours, des semaines, des années. Cette personne aimée avec laquelle on se surprend à parler, parfois tout haut, dont on perçoit parfois l'odeur en ouvrant un livre ou un foulard, dont on pressent presque les réactions, les conseils, la compagnie en fermant les yeux. Cette absence qui s'installe brutalement et vous rappelle à tout moment le manque qui vous fait cruellement souffrir. C'est cela qu'on appelle faire son deuil. Et pendant cette période de deuil, dont la durée peut varier de plusieurs jours à plusieurs années, c'est un peu comme si la vie éternelle de cet être cher s'installait dans la durée, aussi longtemps que nous pensons à lui, que nous parlons de lui, que nous rêvons de lui. Les liens qui nous attachaient à lui, le souvenir de sa vie, de son action, de sa personnalité, lui survivent plus ou moins longtemps, parfois même une à deux générations. Sauf que le deuil dont nous parle ce texte concerne Jésus-Christ, et qu'à partir des 11 apôtres de l'époque, son souvenir, son enseignement, son message, sa prédication n'ont cessé de se développer pour nous accompagner encore, nous et plusieurs milliards d'individus dans le monde, depuis 2000 ans. Ainsi, l'impact inouï de Jésus-Christ, qui dépasse celui de tous les autres hommes sur terre, c'est ce qu'on pourrait appeler la présence de son absence dans nos vies depuis 2000 ans. Reprenons la chronologie des événements. L'histoire de Jésus, telle que la Bible nous la raconte, se résume à quelques courtes années, 2 à 3 ans, pendant lesquelles il enseigne et il prêche, entouré de ses disciples. À la fin de cette période, l'histoire s'accélère à partir de son arrivée à Jérusalem avec la semaine de la Passion qui aboutira au procès et à la crucifixion de Jésus. Le dimanche de Pâques, le corps de Jésus disparaît du tombeau où il était enseveli, puis il apparaît successivement à plusieurs personnes dans plusieurs lieux pendant les jours et les semaines qui suivent, confirmant ainsi la résurrection annoncée. La scène que nous venons de lire clôture l'évangile de Matthieu par une dernière apparition de Jésus devant ses disciples réunis avant sa disparition physique définitive. Et ces quatre très courts versets représentent donc bien son dernier message, ses dernières consignes à ses proches. Dès le lendemain, Jésus ne sera plus présent et l'esprit pas tout à fait encore. On imagine bien les 11 disciples qui sont là, sonnés, désemparés, derniers témoins de sa vie et de sa résurrection, et pourtant pas encore conscients de la mission écrasante qui leur est confiée. Le texte précise d'ailleurs que certains ont des doutes. Doutes sur quoi ? Doutes sur la résurrection ? Doutes sur le chemin futur, ensemble ou séparément ? Doutes sur ce qu'ils vont faire ? À court terme, à moyen terme, peut-être certains d'entre eux songent-ils à reprendre leur vie d'avant, d'avant le Christ, prêts à oublier l'aventure qu'ils ont vécue. Et certains autres sont déjà sur la route pour continuer l'œuvre de Jésus, pressentant l'importance que tout cela peut représenter et se demandant vaguement comment ils vont s'organiser. En tout état de cause, et alors qu'ils sont écrasés de tristesse, comme nous tous, pendant le deuil, les dernières paroles du Christ à ses disciples sonnent comme un réveil, ce que les anglo-saxons appellent le « wake-up call ». Au temps dont les disciples ont besoin pour accepter ce vide, Jésus oppose un programme d'action immédiat. Au chagrin et au manque, il répond par une ambition qui dépasse de loin tout ce qu'ils ont pu espérer de son vivant. Tout simplement, une entreprise qui changera le monde et la vie de toutes les générations futures. Alors pour aller plus loin dans l'analyse, je voudrais reprendre avec vous ce matin ces deux phrases vertigineuses et exaltantes qui sont le point de départ de notre vie de chrétien depuis 20 siècles. Deux phrases, une injonction et une promesse. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est pour l'injonction. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voilà la promesse. Au fond, vers quoi Jésus-Christ a-t-il voulu les envoyer ? Et dans quel but ? Avait-il déjà prévu tout ce qui s'est passé par la suite ? Tout ce qui nous anime encore aujourd'hui, 2000 ans après ? Avait-il une idée précise de l'influence d'un Messie dans la vie des générations suivantes ? Pour moi, il y a dans cette histoire deux points qui sont vraiment importants. D'abord, il y a cette proposition inouïe de Jésus, en rupture avec toutes les religions qui existaient jusqu'alors. Et puis, il y a les conséquences de cette révolution du christianisme pour vous et pour moi. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Car au fond, ce qui nous réunit ce matin dans ce temple, c'est le résultat de ces deux phrases prononcées par un homme il y a 2000 ans. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ leur demande ce matin-là, dans cette dernière apparition en Galilée ? Beaucoup de chrétiens considèrent que cette phrase est en fait la première pierre de l'Église avec un grand E. Un dispositif bien organisé dans lequel on est clairement identifié comme étant dehors ou dedans, avec des rites, des temples, des règles, des dogmes, une appartenance et aussi une sorte de hiérarchie qui s'établira très vite entre ceux qui savent et qui enseignent et ceux qui reçoivent. Mais il y a une autre interprétation que je voudrais vous proposer ce matin. Et qui me paraît être une petite révolution, ou plutôt qui se présente comme trois révolutions. D'abord parce que, avec cet impératif « Allez, faites de toutes les nations des disciples », Jésus envoie ses 11 compagnons bien au-delà de la Galilée, bien au-delà du peuple juif. Si toutes, absolument toutes les nations sont concernées par le Christ, alors c'est que personne n'est exclu, qu'on n'est pas dedans ou dehors. Ni la couleur de peau, ni l'ethnie, ni la nationalité, le sexe, ni l'origine ou le niveau social ne sont un frein pour être accueillis, alors que c'est le cas dans toutes les religions de l'Antiquité, avec des règles précises qui s'appliquaient selon les classes sociales, selon les peuples.
Plus encore, il engage ses disciples à ne pas avoir peur de la différence, de ne pas avoir peur des étrangers, peur de quitter sa région et sa sécurité. Un message universel qui s'adresse à tous, sans distinction, avec un Dieu unique et non personnifié, c'est la première révolution. Puis il leur demande de faire des disciples et de les baptiser. Il ne leur demande pas d'enrôler, d'embrigader, de contraindre. Il ne s'agit même pas de bâtir un temple ou un autel. En fait, il n'a jamais parlé d'église. Non. Il s'agit de permettre à d'autres de rencontrer Jésus-Christ comme eux-mêmes l'ont rencontré et d'annoncer la grâce de Dieu par un geste simplissime dans son exécution comme dans sa signification, le baptême. Un geste qui peut se faire absolument n'importe où, en pleine nature ou dans sa maison, qui ne nécessite que quelques gouttes d'eau, mais dont la signification immédiate de renaissance, de purification et de passage vers une nouvelle vie est tellement évidente. Un geste qui transforme la vie, mais qui ne demande strictement aucune contrepartie à celui qui le reçoit. Nous nous considérons souvent comme presque propriétaires de Dieu, dépositaires exclusifs de sa parole et de ses commandements, ce qui nous permet d'établir des dogmes, des rites, des lois. Mais en réalité, non seulement Dieu ne nous appartient pas, mais nous ne pouvons pas non plus retenir Jésus-Christ ou contrôler l'Esprit. Ainsi, les mots de Jésus ne sont pas un mode d'emploi qui serait valable dans un pays ou dans une époque seule, ou pour des personnes averties seulement. Ce sont des conseils ultra simples qui transcendent les époques et les traditions et donc parlent aussi bien aux hommes de la Galilée du 1er siècle qu'aux Français que nous sommes 20 siècles plus tard. Appelons ça une sorte d'universalisme de la grâce qui nous pousse à agir ici et maintenant. Deuxième révolution. La troisième révolution annoncée par ce texte, c'est l'incroyable confiance qu'elle annonce entre Dieu, Jésus-Christ et les hommes. Jésus va disparaître et désormais, c'est la parole prêchée et le témoignage des disciples qui vont remplacer le fait de l'avoir vu vivant. C'est une responsabilité considérable que leur donne Jésus, car à partir de ce moment-là, les générations qui vont suivre n'auront pas vu Jésus, n'auront pas écouté son enseignement. Ce sont bien les apôtres et ceux qui suivent qui vont passer le relais de génération en génération pour que cette bonne nouvelle soit entendue jusqu'à nous. Ce sont bien ceux-là, les premiers disciples, suivis de Paul et des premiers chrétiens, qui vont prendre au sens strict leur bâton de pèlerin, partir sur les routes, en Grèce, en Italie, en Samarie, pour enseigner à leur tour, prêcher la parole du Christ. Ce sont eux aussi qui vont écrire l'Évangile tout au long du 1er siècle, qui vont assembler patiemment ces récits de façon à ce que la parole, ce précieux enseignement, arrive jusqu'à nous. Ce sont eux aussi qui vont perpétuer les deux sacrements institués par le Christ lui-même pendant sa vie, le baptême et la communion. C'est même ainsi que les apôtres convaincront le plus facilement d'autres hommes. Partager le pain et le vin autour d'un repas pris en commun, ce geste qui deviendra vite le symbole des chrétiens dans le monde entier. Ce n'est pas un geste religieux, c'est un geste de partage universel. Et donc cette troisième révolution, ce n'est pas que les hommes deviennent Dieu à leur tour, mais que Dieu leur donne, sans aucune réserve ni contrepartie, la responsabilité de le représenter sur terre, sans hiérarchie. Et en instituant ce relais, Jésus fait de tous les hommes des prêtres ou des pasteurs, sans autre compte à rendre qu'à Dieu. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Eh bien, cela signifie que depuis les premiers apôtres, depuis Paul, Luc et les autres qui ont écrit les évangiles, nous sommes tous, de génération en génération, des passeurs de Christ, des passeurs d'humanité. La voix de Jésus s'est tue, mais comme l'écrit le pasteur Gérard Deltheil, d'autres voix se sont élevées, en écho avec sa propre parole. Non pas pour répéter, reproduire ce qu'il a dit, qui le pourrait d'ailleurs, mais pour que résonne ce que sa parole a suscité, pour que se déploie le monde nouveau qu'il a ouvert. Ce n'est jamais sans lui qu'ils vont parler, et pourtant c'est bien leurs paroles à eux, leurs accents à eux, chacun d'entre eux et d'entre vous qui vont se faire entendre. Sans lui, et pourtant avec lui, grâce à lui. Ce rapport désormais égalitaire avec Jésus implique une totale confiance de sa part et une totale responsabilité de notre part. Une responsabilité et une action. Nous n'attendons plus un Dieu qui commande et qui gronde, mais nous attendons un Dieu qui nous aide, qui comprend nos erreurs et encourage notre action, constamment et sans réserve. Dans toutes les religions du monde, même chrétiennes, même protestantes, Dieu est toujours là, où qu'on aille, omniprésent, oppressant, incontournable, celui qui sait tout, qui contrôle tout, auquel rien n'échappe. Or, on le voit bien, pour Jésus, ce Dieu-là, c'est le faux Dieu. Car le Dieu véritable, c'est celui qui veut prendre du recul. Non parce qu'il aurait cessé de nous aimer, mais au contraire, parce qu'il veut nous faire confiance et nous exercer à l'usage d'une liberté responsable. Et cette liberté-là, elle devient d'un seul coup compatible avec le doute que nous connaissons tous, le doute qui devient un moteur et non pas une culpabilité. C'est donc dans ce rapport interpersonnel que nous créons avec Dieu, sans aucune intervention d'une église, d'un contrôleur de conscience quelconque, que nous puisons le courage pour l'action. Car s'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, ça implique cette relation intime, constante, permanente, personnelle. Ça implique que nous puissions lui parler, mais ça implique aussi que nous puissions lui demander des comptes, lui exprimer notre colère ou notre découragement. Ça implique qu'il soit toujours là pour nous pousser à l'action dans la même direction, celle de notre prochain, celle de l'annonce de la grâce et de la fraternité. Et c'est bien dans la diversité des hommes, de leur manière de penser, de vivre et de croire, que nous retrouvons cet universalisme qui est le cœur de l'enseignement de Jésus-Christ. Comme les apôtres il y a 2000 ans, nous ne faisons pas le deuil de Jésus-Christ. Nous faisons le deuil d'une vie avant lui, d'une vie sans lui. Une vie dans laquelle les hommes subissaient la volonté d'un Dieu qu'ils ne comprenaient pas, dans laquelle ils n'étaient jamais à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Ce Dieu du Deutéronome qu'on a lu au début de ce culte. Cette vie-là, elle s'est finie avec Jésus-Christ. D'un deuil, d'une douloureuse absence, il a réussi à faire une vraie présence depuis 2000 ans. Selon les personnes, selon les moments, selon l'heure du jour ou de la nuit, il est successivement une écoute, un pas dans nos pas, un cheminement commun, une parole, presque un souffle parfois. Mais même ce souffle-là fait que décidément, non, nous ne sommes pas seuls. Amen. Thank you.
propose de vous lever pour confesser notre foi. Avec une confession de foi tirée d'une prière de Charles Wagner. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité. Il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant, qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance, et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours, à travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de la mort. Je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec nous tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. C'est maintenant le moment des annonces. Comme vous le savez, notre pasteur Dominique Hernandez est absente ce week-end pour la commission des ministères et elle sera là de retour dimanche prochain pour le culte. Hier, il y avait une journée des présidents de conseils presbytéraux organisée par la région à laquelle j'ai participé. Je vous en ferai un petit compte-rendu dans l'amitié du mois prochain. Il y a donc jeudi une pause spirituelle, comme chaque jeudi, à l'heure du déjeuner. L'inscription pour les cours de français langue étrangère. Chantal, est-ce que tu veux dire quelques mots? Les cours donc reprennent. Et donc l'inscription est prévue. Le 1er cours, le 5 octobre. Donc après une année d'arrêt, les cours, et ça c'est une excellente nouvelle, peuvent reprendre. Donc le mardi et le jeudi. Le groupe Ciel et Terre se réunira samedi à 10h30, en présence et à la fois en Zoom pour certains, pour ceux qui ne peuvent pas venir. Donc à 10h30 à la salle du deuxième et puis sur écran. Catéchisme samedi 2 de 17h30 à 19h30. Le culte de dimanche prochain sera fait avec la commission Église Verte. Vous savez qu'il y a un groupe Église Verte qui a démarré depuis un an et qui a déjà beaucoup travaillé. Et c'est avec ce groupe que sera prévu, conçu le culte de la semaine prochaine. Une annonce importante également, le dimanche prochain, après le culte du matin, il y aura l'après-midi à 15h30, un culte cantate. Vous savez que maintenant, nous avons décidé non seulement de donner des concerts, des cantates, avec que les musiciens nous proposent tous les mois, comme d'habitude, le premier dimanche du mois. Donc la cantate aura bien lieu dimanche à 17h30, mais aussi, une fois de temps en temps, et une fréquence qui devrait être tous les deux mois ou tous les trois mois, nous avons décidé de prolonger l'expérience des cultes cantates, c'est-à-dire de se mettre vraiment comme au temps de Bach dans les dispositions où les fidèles écoutaient la cantate en même temps que le culte. Bien entendu, il sera un peu raccourci, car je crois qu'au temps de Bach, le culte devait durer 3 à 4 heures. Donc ce ne sera probablement pas tout à fait ça, mais c'est une expérience à laquelle vraiment je vous invite à participer. On en a fait deux pendant les derniers mois. C'était vraiment extraordinaire comme impression et c'est vraiment une expérience qui mérite d'être vécue, donc je vous encourage à venir. Donc 15h30 ou 17h30 pour les amoureux des cantates dimanche prochain. Comme chaque dimanche, une collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge qui est en cours et qui continue. Une annonce qui concerne aussi beaucoup de personnes dans la paroisse, le décès de Madame Geneviève Maupin, que beaucoup d'entre vous ont connue. Elle était très connue au foyer de l'âme où sa mère avait même travaillé avec Charles Wagner. Madame Maupin venait de temps en temps au culte et puis elle participait aux études bibliques et même à la chorale. Dominique a donc accompagné la famille vendredi matin au crématorium de Champigny et il est prévu un culte d'action de grâce pour elle à l'oratoire pour lequel la date n'est pas encore déterminée. Nos pensées sont bien sûr avec ses fils Philippe, que nous voyons souvent au culte, et Michel. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées, des uns ou des autres? Est-ce que le trésorier veut nous faire l'annonce de la collecte? Non, tu n'as pas de problème particulier. Le trésorier n'a pas de problème particulier. Néanmoins, il aime, comme nous tous, que vous donniez avec joie, puisque c'est aussi un acte de foi. Donc je vous propose de vous lever, de chanter en même temps que la collecte sera ramassée, le cantique numéro 280, les strophes 1, 2 et 3. Inclinons-nous dans la prière d'intercession. Éternel Dieu de la vie, nous te remercions pour ce culte qui nous rassemble dans un même élan, un même souffle. Merci pour ta parole de vie qui nous rejoint fidèlement au cœur d'un monde incertain. Merci pour ta grâce qui nous inonde depuis 2000 ans et qui nous permet d'aller au-devant des autres sans peur de faire des erreurs, confiant dans ta présence de chaque jour auprès de nous. Nous te confions les peuples qui souffrent et que nous sommes impuissants à aider, les Indiens, les Pakistanais, qui après la maladie subissent la crise économique et la famine. Nous te prions pour le peuple afghan et surtout pour ces femmes afghanes, courageuses et opprimées, que leurs pensées ne quittent pas la nôtre dans les mois, les années qui viennent. Nous te confions celles et ceux qui pensent à une nouvelle manière de vivre ensemble et celles et ceux qui réfléchissent à une autre économie solidaire des hommes et de la terre. Nous te confions les personnes qui ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour ce petit enfant que nous entendons dans le temple. Rappelle-nous que ce souffle que Jésus a donné à ses disciples, écrasés par le chagrin, nous est donné à nous aujourd'hui, en toute autonomie, afin que nous soyons les témoins actifs de ton amour et les passeurs de ta parole, là où tu nous as placés. Et ensemble, liés les uns aux autres, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, vous tous, passeurs de l'enseignement du Christ, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées et nos pas en Jésus-Christ, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.